Toc Toc dans le micro, une émission proposée et réalisée par Clémentine Urbain. Une série de 6 émissions pour donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais. Aujourd'hui, dans ce premier volet, les adhérents du groupe d'entraide mutuelle nous parlent de l'environnement et de l'urbanisme. Vous sentez-vous concerné par la protection de l'environnement ?
Oui, bien entendu, comme tout le monde. Bien, en ce qui me concerne personnellement, je ne jette jamais un papier par terre. Je n'ai pas de chien parce que j'ai pas envie de ramasser des caca sur le trottoir. Je circule en voiture le moins possible. J'emprunte le plus souvent les transports en commun, où je fais du vélo, où je marche à pied. Il y a aussi l'environnement sonore, parce qu'on parle beaucoup de l'environnement visuel, mais aussi l'environnement sonore, l'environnement contre le bruit. Je respecte les consignes, par exemple, de copropriété, là où j'habite. Je respecte aussi les espaces verts. Je ne vais pas avec un quad dans les sentiers montagneux ou avec une moto de cross dans les parcs. Par conséquent, je participe à mon échelle. C'est peut-être modeste, mais enfin, si tout le monde a le même comportement, si tout le monde fait un effort individuel, je pense que la somme des efforts individuels n'est pas négligeable, et que c'est un appoint, que ça n'empêche pas évidemment les industriels et tous les autres agents concernés de faire le nécessaire pour préserver l'environnement, mais aussi les communes, quand elles donnent des permis de construire, elles ont aussi un moyen d'agir sur l'environnement dans la mesure où elles ne doivent pas distribuer des permis de construire n'importe où, n'importe comment, faire des lotissements dans des ronds-points ou tasser les gens les uns sur les autres. J'estime que ça aussi, ça mérite d'être pris en considération si on veut se faire un environnement acceptable à l'être humain.
Pour l'environnement, je faisais autre chose. Quand je promenais mon chien, j'avais toujours un sac poubelle et un sopalin pour ramasser au cas où.
Déjà, je ne jette pas les papiers n'importe où. Ça, c'est civique. Je pense que tout le monde doit le faire. Là où il y a des poubelles, mais il n'y a pas des poubelles partout. Sinon, je ne fais pas grand-chose de plus. J'ai pas de permis, donc je ne peux pas polluer. C'est déjà une bonne chose. Sinon, je ne fais pas grand-chose contre la pollution. Je suis un mauvais élève. Voilà.
Moi, pour préserver l'environnement, je trie mes déchets, je vais dans la poubelle à verre, je ne pollue pas par le bruit, j'éteins les lumières aussi, c'est à peu près tout. Je prends le transport en commun.
Je prends soin de moi, déjà, c'est-à-dire que je m'occupe de mon corps. Par exemple, je fais du yoga, je fais du sport. On vit dans une culture beaucoup du déchet, c'est-à-dire que même les êtres humains, parfois, ce sont des déchets. La civilisation dans laquelle on est produit beaucoup de déchets, y compris les êtres humains. Et donc, je pense qu'il faut lutter contre ça et que donc, prendre soin de soi, à partir du moment où on prend soin de soi, par rapport à ce à quoi on a affaire, on ne projette pas une mauvaise façon d'être sur ce à quoi on a affaire et donc sur la nature, sur son environnement.
Quelles sont les pollutions qui vous incommodent le plus ?
Les gaz d'échappement des voitures. Là, vraiment, je suis allergique. Une voiture, de toute façon, ça fait du bruit, ça me gêne. Ça pollue l'atmosphère, ça roule comme des... Ça met en jeu la sécurité des piétons. Mais moi, la voiture des autres me dérange. En particulier en centre-ville, où je considère que la priorité doit être faite au mode de transport collectif. Il n'y a pas de bonne coexistence entre les voitures et le plaisir de la marche, le plaisir de déambuler en ville au milieu des voitures. C'est une chose qui ne me paraît pas possible. Donc moi, ce qui me dérange le plus, c'est l'automobile.
Alors moi, ce qui me dérange le plus, c'est la fumée de la cigarette dans les transports publics, parce que je suis allergique à la cigarette dans les endroits fermés, ça provoque chez moi des crises d'asthme.
Moi, il y a 3 choses qui me dérangent. C'est la pollution lumineuse, parce qu'on ne peut plus voir les étoiles comme on les voyait avant. La pollution des voitures, parce qu'on s'étouffe en ville. Et la pollution chimique, parce qu'on ne peut plus pêcher les poissons comme on les pêchait avant. Voilà, c'est nostalgique tout ça, mais c'est pollution nostalgique.
Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est la pollution des voitures, parce que ça fait longtemps que j'ai pas de voiture et c'est insupportable de supporter ce bruit, c'est sentir ces odeurs. Ce qui me dérange aussi, c'est la pollution des odeurs. On respire plus. Et puis le bruit en ville. Et puis la saleté. J'attrape des maladies de peau, des trucs comme ça.
Oui, alors les pollutions qui me gênent le plus, c'est beaucoup la pollution sonore. Je pense qu'on ne se rend pas assez compte, me semble-t-il, qu'on peut changer la vie des gens, notre vie à nous, en changeant ce qu'on peut appeler le paysage sonore. Je vais prendre un exemple tout simple de ça. Donc, dans le GM, des gens qui ont été ou qui sont en souffrance psychique, le système nerveux est énervé, il est crispé. Donc, selon le type de musique qu'on écoute, soit le système nerveux il va se détendre, se relâcher, soit il va au contraire se crisper encore plus. Je trouve ça important. Et autre chose que je voudrais dire, c'est la nourriture. Une chose qui est très incompréhensible. La recherche contre le cancer a fait de plus en plus de progrès. Or, le nombre de cancers, de diabète, de maladies dégénératives du cerveau augmente tout le temps. Donc là, il y a une sorte de contradiction qui est difficile à comprendre. Et à mon avis, ça vient beaucoup de la nourriture. On ingère des produits Coca-Cola, etc., qui sont pas très bons et qui amènent, qui polluent le sang. Et après, le sang pollue les cellules et les cellules amènent le cancer, quoi.
Pensez-vous que nous nous préoccupons suffisamment de l'environnement à Montpellier ?
Je pense quand même que c'est une dimension qui fait partie du programme d'activité de la mairie de Montpellier. Maintenant, qu'est-ce que veut dire se préoccuper suffisamment de l'environnement ? Ça passe toujours par des choix. Et je pense quand même qu'il est difficile que les choix donnent satisfaction à tout le monde. Quand on fait plaisir à un tel, souvent c'est au détriment de quelqu'un d'autre. Alors, je crois que se préoccuper de l'environnement, ça demande beaucoup de concertation. Je suis pas certain que la concertation aille jusqu'aux personnes intéressées. C'est-à-dire que je mets un petit peu peut-être en cause la démocratie participative des habitants de la ville proprement dit, aux choix qui sont effectués par la municipalité. Je crois qu'il faut aussi donner la parole, la donner davantage aux gens qui sont concernés avant de prendre des décisions.
Je pense que plus d'efforts individuels devraient être faits à ce niveau pour que l'environnement progresse.
Oui, pour aller dans le sens de Yves, je dirais que la parole n'est pas assez donnée aux intervenants de l'environnement. Parce que pour ce qui est de choisir les endroits où mettre les déchets, on impose plus qu'on ne demande aux gens les endroits où mettre les déchets de Montpellier, quoi. Alors qu'il y a énormément de déchets à Montpellier et on impose aux gens de l'extérieur de Montpellier des déchetteries et on leur demande pas leur avis, quoi. On leur impose. D'où le manque de démocratie, effectivement, de la ville de Montpellier vis-à-vis des extérieurs.
Moi, je trouve qu'il y a trop de voitures à Montpellier. Je suis toujours surpris de toutes ces voitures. Je trouve que les appartements sont trop petits, je sais pas si je peux le dire. Du coup, comme la ville s'est agrandie, les plages sont restées identiques à elles-mêmes, c'est-à-dire que pour se baigner, on a un tassé. C'est important, je trouve, de le dire.
Montpellier, on a de la chance parce que c'est à côté de la mer, et la mer, ça calme les gens. Je sais plus qui c'est qui le disait, mais c'est bien vrai, l'eau, ça calme. Ensuite, je trouve que, comme l'a dit Agnès, et vraiment, le problème, c'est la circulation. Je suis pas certain qu'il n'y ait pas une sorte d'un petit doux délire, si je peux me permettre. Il y a trop de travaux déjà à Montpellier, c'est-à-dire qu'ils sortent un travaux nouveau toutes les semaines. Et donc vraiment, on peut pas circuler.
Pensez-vous que la qualité de vie soit la même qu'avant ?
La même qualité de vie qu'avant, j'en suis pas persuadé, parce que la ville de Montpellier a vocation à accueillir tous les nouveaux venus, tous ceux qui ne savent pas où aller, on les accueille à Montpellier. On en accueille tellement que les équipements collectifs ne font que suivre la venue des gens. Et par conséquent, les conditions finalement du bien vivre, du mieux vivre, d'amélioration de la qualité de vie ont toujours un temps de retard. Et donc c'est extrêmement difficile d'obtenir des conditions satisfaisantes pour les anciens Montpelliérains. Je pense que si la croissance démographique continue comme ça à Montpellier, et que Montpellier se dirige dans le sens d'une mégalopole, la qualité de vie sera automatiquement dégradée parce que la ville de Montpellier conserve encore par certains côtés des caractères ruraux, agréables, on est vite sorti, la nature est très proche et que s'il vient encore de nouveaux arrivants pour arriver à une mégalopole de 500 000 habitants, on va se trouver avec des distances incommensurables pour traverser la ville et on aura rejoint, je dirais, tous les axes routiers environnants. Il n'y aura plus les bois, les forêts qui ceinturent Montpellier et ça, personnellement, moi je ne le souhaite pas.
Je ne pense pas que la qualité de vie soit la même qu'avant. Quand je suis arrivée à Montpellier en 77, il y avait plus de convivialité. Par exemple, on pouvait sortir tard le soir, on n'avait pas peur. Maintenant, l'insécurité prime, on a peur de sortir tard le soir, d'être accosté, de recevoir des propositions malhonnêtes, pour ne pas dire plus.
Oui, mais je pense que ça, c'est dû à un phénomène de société global. C'est-à-dire, c'est pas particulier à Montpellier. En revanche, je dirais que c'est plus agréable de vivre à Montpellier maintenant. D'abord pour les transports. Ensuite, pour la qualité de vie au point de centre-ville, oui, c'est des rues piétonnes. Il n'y a pas de circulation au centre-ville, donc c'est des rues piétonnes, c'est plus important. Et puis, peut-être le centre-ville piéton va s'agrandir encore, donc c'est encore une qualité de vie supérieure. Je pense que c'est plus agréable de vivre maintenant qu'il y a quelques années.
Ben moi, je ne suis pas d'accord avec Xavier, parce que moi, ça fait longtemps que je suis à Montpellier. Et j'ai passé ma jeunesse avec des familles, on se fréquentait. Et maintenant, c'est tellement grand Montpellier, les gens déménagent. On se perd de vue, et c'est vrai que c'est l'inconnu. On sort dehors, on fréquente que des inconnus, et c'est... on dirait qu'on est à Paris, et je trouve ça bête.
Donc ça, c'est le genre de question, il est difficile de répondre, parce que je pense que, d'un certain point de vue, la qualité de vie est meilleure. Par exemple, on vit plus longtemps, par exemple. Donc ça, si on vit plus longtemps, c'est que nos conditions de vie sont meilleures. C'est pas inintéressant de vivre longtemps. Dans quelles conditions on vieillit aussi, c'est une autre question. La qualité de vie, c'est beaucoup les qualités de relations que nous avons entre nous. Et je trouve que ce qui gêne beaucoup la qualité de vie, les relations que nous avons entre nous, c'est le fait que le système nous oblige à être performants et en compétition les uns avec les autres. Donc à partir du moment où il faut être absolument performant, sinon on n'a pas de travail, on est au chômage et c'est vite fait, il y a une sorte de contradiction qui est très forte, je trouve, entre le fait de vouloir vivre ensemble, ce qui est le projet des hommes, quoi, vivre ensemble bien, et le fait d'avoir installé cette culture de la compétition à fond, qui fait que c'est difficile.
Alors ça a été abordé un petit peu, est-ce qu'au sein du GEM, vous abordez ces questions relatives à l'environnement ou à l'urbanisme ?
Oui, bien entendu, le GEM a implanté auprès d'Arène et on aborde ces questions. D'abord, est-ce qu'on peut venir facilement au GEM ? Ça, c'est une question qui nous a préoccupés tout au long de ces dernières années. On a souffert de la construction de la ligne 3 de tramway. Maintenant, elle est achevée. Pour nous, c'est quelque chose de très positif. Maintenant, le GEM, c'est vrai qu'il est dans un environnement assez bruyant, assez fréquenté, mais nous sommes dans des locaux qui ont été mis à notre disposition moyennant des conditions avantageuses et on n'a pas les moyens d'aller forcément dans des beaux parcs au milieu de la nature, dans le calme et les petits oiseaux. Sinon, on ne s'en priverait pas. Hein.
Oui, on les aborde, mais surtout avant que le tramway arrive. Pour moi, ce n'était pas facile parce que je devais me faire accompagner en voiture et la personne commençait à renacler. Donc maintenant qu'il y a le tramway, je suis plus indépendante, je n'ai plus besoin de personne.
Oui, on aborde là donc par rapport à l'urbanisme, c'est par rapport au tramway, oui, la ligne 4, il faut bien le préciser, c'est pas la 3. Et l'environnement, bah oui, on en parle par rapport au jardin qu'on a fait à Saint-Martin. On fait un jardin bio, donc c'est très important pour nous qu'il soit bio ce jardin. Voilà.
Au sein de la GEM, déjà, il y a le jardin. Récemment, on a acheté des plantes, et puis c'est vrai qu'il y a Yolande qui s'en occupe beaucoup. Puis on fait un effort pour préserver la propreté des locaux, c'est aussi important.
Au GEM, on parle de plein de choses. C'est très agréable d'être entre nous, de parler de tout et de rien. Malheureusement, comme dans tous les autres endroits, on ne parle pas de ce qui est le plus important, ce qui est le plus essentiel. Le principe du GEM, c'est de divertir les gens. Le fait qu'on se divertisse beaucoup va oblitérer le fait qu'il faudrait essayer de parler de ce qui est important et ce qui est essentiel pour nous, pour soi, pour les autres, parce que ça permet d'avancer vers ce qui pour moi est le plus important, c'est-à-dire la guérison. Pas d'avoir des soins, d'être stabilisé, mais de guérir.
Est-ce que vous pouvez nous décrire votre quartier ?
Moi, mon quartier, c'est un quartier qui est jusqu'à présent avait une vocation militaire, puisque j'habitais à côté de l'EAI. Malheureusement, l'EAI, qui était une école de formation de l'infanterie, a fermé ses portes l'année dernière. Et l'espace, maintenant, est disponible et va faire l'objet d'un important programme de construction. On parlait de 1000 logements, maintenant on parle de 2500. Le départ de l'armée a permis de libérer un espace vert extrêmement agréable qui s'appelle le parc Montcalm, que la ville a racheté et qui maintenant est à la disposition de tous les Montpelliérains. Et je dois dire que le parc Montcalm n'a pas son équivalent à Montpellier. Il a 1,5 hectare de verdure où l'on peut pratiquer un petit peu tous les sports que l'on veut, se détendre, jouer à la pétanque, etc. Ça constitue dans notre quartier une avancée considérable.
Mon quartier est situé près d'un tram, l'arrêt Aiguelong. Il n'est pas loin de la maison pour tous Albert Dubout. Et pas loin de chez moi, il y a un Carrefour Market où je fais mes courses. Chez moi, la vue est magnifique. Elle donne sur un parc, donc ça me différencie de la Comédie où avant j'avais juste un mur et c'est beaucoup plus large.
Ben moi, j'habite du côté de Estudiantin de les universités, du côté du Triolet. J'ai le tram 1 qui passe là, c'est l'arrêt université. C'est un quartier bourgeois, j'habite dans une résidence, c'est très agréable, je suis orienté nord-sud, c'est agréable, voilà.
Ben moi j'habite dans le quartier de Figueroa, à côté de la cité des Gitans, dans une résidence à côté, qui est dans un appartement assez petit. C'est un quartier populaire qui se situe un peu après Gambetta, le quartier arabe, et qui va vers la Croix d'Argent, voilà.
Alors moi j'habite à Tournesy près d'Arène. Et ben c'est un très bon quartier, un très joli quartier que j'aime beaucoup. C'est calme, ce qui est pour moi une grande qualité. À ma connaissance, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de bande de jeunes qui seraient complètement excités, je ne vois pas ça. Et alors une chose que je voulais dire, c'est que la nuit je me promène, c'est-à-dire je ne dors pas toute la nuit, donc je fais des balades qui peuvent durer jusqu'à une heure, et c'est magnifique la nuit, quoi. C'est-à-dire la nuit, les ombres des arbres, les ciels qui sont chargés souvent, le vent, il y a beaucoup de vent ici à Montpellier, le vent la nuit n'est pas du tout le même que le vent le jour, il est beaucoup plus beau la nuit. Voilà, et je fais des photos, parce que j'adore faire des photos la nuit, et je trouve ça magnifique. Et voilà, et une fois, j'ai rencontré la fée bleue. Au détour, là, à un moment donné, il y a une sorte de tunnel, donc j'y suis passé le tunnel, et après j'ai rencontré la fée bleue. Donc elle avait une chevelure abondante, jaune, elle avait les yeux bleus, alors elle avait des bouquets dans les mains, elle avait toute une tribu de chats autour d'elle, et elle chantait. Elle chantait des chansons magnifiques. Les Beatles, à côté, c'est vachement moins bien. Elle chantait une sorte de mélodie mystique, quoi. C'était absolument extatique. Tout d'un coup, je me suis senti rempli de lumière et de beauté, vraiment. Elle était vêtue d'une longue tunique rouge. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, continue, Thierry, tu es sur le bon chemin. Parce que je ne t'ai pas dit, tu ne sais pas, toi, j'écris des chansons. Il faudra que je te chante une chanson un jour. Donc la différence est sacrée. C'est ça, ça me paraît très important, la différence est sacrée. Donc à partir du moment où la différence est sacrée, on ne l'exclut pas. Elle est de fait intégrée. Il faut trouver des solutions. Par exemple, c'est un enfant il est bien cet enfant quand il vit sur un hippopotame. Et bon, on va le laisser 6 heures par jour sur l'hippopotame. Parce qu'il est bien comme ça. Et après, sa mère va le chercher le soir et son père l'amène le matin. En fait, c'est comme l'école, quoi. Voilà, dans la psy, il y a une chose très importante qui a été vraiment une chose historique réelle en France, c'est ce qu'on appelle la psychiatrie institutionnelle. Ça veut dire faire des choses avec les gens. En tant qu'infirmière en psychiatrie, au lieu de passer des temps à faire des réunions pour discuter comment il est celui-là et ou à passer 3 heures de rang pour préparer les médicaments, on fait des choses avec les gens. Donc, par exemple, ce qu'on appelle l'art-thérapie. Voilà, ce monsieur, dont j'oublie le nom là, avait dit une chose magnifique, il avait dit que la folie faisait partie de l'intégrité humaine, évidemment.
Nous fait le lien avec les infrastructures.
Donc c'était le handicap au départ, parce que les infrastructures sont créées pour les personnes handicapées, en partie seulement, et à partir du moment où les personnes considèrent qu'on les voit du seul point de vue du handicap, et non pas en considérant qu'elles font partie intégrante et complète de la vie.
Toc Toc dans le micro, une série d'émissions réalisées avec Yolande, Xavier, Yves, Marie-Chou, Thierry, Daniel, Cyril et Agnès du groupe d'entraide mutuelle de l'ESEPS. Avec le soutien du Conseil Général, de l'Espace Jeunesse de la Mairie de Montpellier et la Maison pour tous de l'Escoutaillera.